Quelqu'un est débrouillard quand il sait utiliser ce qu'il a sous la main. Avec une telle déclaration, je n'ai pas inventé la poudre. Par contre, ce qui est tout à fait intéressant à noter est que l'Éternel met lui aussi à son service les ressources qui sont à sa disposition. Il fait avec ce qu'il a sous la main. Il a choisi Zacharie pour prophète, et comme ce dernier est né juif et a été élevé en Babylonie, il a subi l'influence de ces deux milieux que Dieu utilise quand il inspire son serviteur. En effet, les prêtres païens étaient connus pour leurs transes et manifestations extatiques, ce qu'on retrouve dans la façon de s'exprimer de Zacharie, qui est très symbolique. Les visions qu'il décrit sont marquées par le surnaturel. Des anges figurent dans chaque révélation qu'il reçoit, et même Satan apparaît dans l'une d'entre elles. Il voit des êtres et des objets ayant une apparence ou une forme extraordinaire ou qui sont très bizarres. Le prophète Ézéchiel, qui faisait partie de la charrette des Juifs déportés à Babylone, a lui aussi eu des visions tout à fait fantasmagoriques. Cependant, chez Zacharie comme chez Ézéchiel, l'influence babylonienne s'arrête à l'aspect extérieur de la vision. Elle n'a aucune action sur le contenu, sur la pensée proprement dite, sur les espérances et les convictions, ainsi que les conceptions du monde du prophète. Zacharie fut formé à l'école des prophètes et il continua l'œuvre de ses prédécesseurs dont il s'est inspiré. Son livre contient en effet de nombreuses allusions aux écrits des prophètes antérieurs. Le nom Zacharie est très fréquent dans l'Ancien Testament, puisqu'au moins 20 personnes différentes le portent. Il signifie « celui dont l'Éternel se souvient » ou simplement « l'Éternel se souvient ». Zacharie dit être le fils de Barachi, fils d'Ido. Esdras cite Zacharie à côté d'Agée comme ayant, avec lui, exhorté les colons juifs à reconstruire le temple. Mais il dit qu'il est le fils d'Ido. Cette différence est due au fait que dans une généalogie, les auteurs sacrés passent souvent sous silence les intermédiaires pour ne relever que les noms principaux qu'ils rattachent les uns aux autres. Par exemple, Matthieu écrit « Asa eut pour descendant Josaphat, Josaphat eut pour descendant Yoram, Yoram eut pour descendant Ozias. Or, entre Yoram et Ozias, quatre rois de Juda sont omis. » Tout ça pour dire que le mot « fils » prend parfois le sens de « descendant » et que Zacharie était le fils de Barachi et le petit-fils de Ido. Zacharie est né en exil en Babylonie environ une quinzaine d'années avant l'édit de Cyrus. Avec sa famille, il fit partie du convoi de Juifs qui retournèrent en Juda. Le livre de Néhémie mentionne Ido, le grand-père de Zacharie, comme chef d'une famille de prêtres rentrés de captivité avec Zorobabel et le grand prêtre Josué. À ce dernier succéda Yoyakim, puis son fils Eliashib. Zacharie était de la même génération qu'Eliashib. Cependant, sous la prêtrise du père de ce dernier, Zacharie est déjà chef de la famille sacerdotale d'Ido, alors que ça aurait dû être son père. Ces détails barbants signifient que Zacharie a rapidement succédé à son père parce que ce dernier est mort. Et quand Zacharie, en l'an 520, commence son ministère prophétique, il a tout juste dépassé la trentaine. Le style de Zacharie est d'une grande simplicité. Il conserve partout, même dans les visions les plus riches en symboles extraordinaires, une allure calme et tranquille. Il ne s'emballe jamais et dit seulement « je regardais et je vis ». Puis il décrit ce qu'il voit sans montrer d'émotion, même quand un ange le réveille sans ménagement. Zacharie se contente de raconter et rapporter les ordres ou les promesses que Dieu lui donne, sans manifester de sentiments personnels. Zacharie écrit toutes ses visions en prose, à l'exception d'un petit morceau qui est poétique. Son hébreu est pur et sans trace des langues parlées en perse. Les 8 premiers chapitres du livre de Zacharie et les oracles du prophète Agée datent de la même époque. Mais pour bien les comprendre, il est utile de les replacer dans leur contexte historique. En l'an 586 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor, roi de Babylone, mit fin au royaume de Juda et déporta ses habitants, tout comme les Assyriens avaient effacé de la carte le royaume israélite des 10 tribus du Nord en l'an 722 avant Jésus-Christ. Pendant l'exil babylonien, Dieu révéla au prophète Daniel que les puissances de ce monde domineraient Israël jusqu'à ce que le temps des nations ou temps de la domination des païens, comme Jésus l'appelle, arrive à son terme et soit remplacé par le royaume de Dieu. Après la chute de Babylone, sous les coups de boutoir des Perses, l'empereur Cyrus le Grand décréta que les descendants d'Israël pouvaient retourner dans leur pays afin de reconstruire le temple de l'Éternel leur Dieu. Cependant, la première caravane de colons ne comporte qu'une petite minorité de Juifs, environ 50 000. Parmi eux se trouvent les prophètes Zacharie et Agée. Ils sont conduits par Zorobabel, leur chef civil et l'héritier du trône du roi David, ainsi que par Josué, le grand prêtre. Plein d'enthousiasme, les colons rétablissent tout de suite l'autel des holocaustes afin d'y offrir des sacrifices à l'Éternel, puis posent les fondations du temple. Cependant, l'opposition des populations païennes voisines et surtout des Samaritains très hostiles, fait cesser les travaux. Les colons découragés abandonnent alors totalement l'idée de reconstruire le temple pour se concentrer sur eux-mêmes. 16 ans d'apathie spirituelle s'écoulent jusqu'à la venue de Darius Hystape à la tête de l'Empire perse. Ce souverain doit consacrer les 2 premières années de son règne à mater les révoltes qui ont éclaté à son avènement. La seconde année de son règne, à la fin août 520, Agée appelle les colons à rouvrir le chantier du temple laissé à l'abandon. 3 semaines plus tard, ils s'attellent à la tâche. Ils subissent à nouveau l'opposition de leurs voisins, mais obtiennent l'aval de Darius et peuvent continuer le travail. C'est en octobre-novembre 520, un peu plus de 2 mois après la première prédication d'Agée, que Zacharie entre en scène et donne son premier discours, par lequel il soutient l'action d'Agée avec le même message que lui. En décembre, Agée reçoit de nouveaux oracles, ces derniers. En tout, il prêcha 4 sermons en 4 mois, puis disparut de la scène prophétique. Zacharie commença son ministère pour les mêmes raisons et dans les mêmes circonstances qu'Agée, ce que reflète le début de son livre. En février 519, alors que les colons travaillent avec zèle, Zacharie reçoit une série de 8 visions en une seule nuit, sous forme de rêves prémonitoires. Ces visions, qui vont par paires, décrivent une sorte de mouvement concentrique. Les visions 1 et 8 forment une paire qui concerne l'ensemble des nations et qui encadre les 6 autres. Les visions 2 et 3 visent plus particulièrement Jérusalem, et les visions 6 et 7 l'état du peuple de Juda. Les 2 visions centrales, 4 et 5, concernent le temple ainsi que Zorobabel et Josué, les 2 chefs principaux du peuple. De toute évidence, Zacharie est appelé à un ministère d'une envergure bien plus grande que celui que Dieu a confié au prophète Agée. Prononcé pendant la reconstruction du temple de l'Éternel, les visions de Zacharie forment son 2e discours. Elles sont comme des pierres apportées à l'édifice que les colons bâtissent. Il encourage, console, exhorte, en montrant l'avenir brillant réservé à Israël et les bénédictions abondantes qui résulteront de la restauration du temple de l'Éternel. Celui-ci sera terminé et consacré en l'an 515. Les huit visions nocturnes de Zacharie sont clôturées par un oracle qu'il reçoit à l'occasion de l'arrivée à Jérusalem d'Israélites porteurs de dons provenant des communautés juives de Babylone et destinés à la reconstruction du temple. C'est son troisième discours. Sur ordre de l'Éternel, une partie de ces dons est utilisée pour fabriquer une couronne royale que l'on pose sur la tête du grand prêtre Josué. On lui avait déjà dit qu'il servait de préfiguration à celui que l'Éternel appelle « mon serviteur, le germe », qui est un titre messianique. Ce geste symbolique est l'occasion de donner des précisions concernant ce personnage. Le germe bâtira lui aussi un nouveau temple et cumulera les fonctions de prêtre et de roi. Des gens viendront alors de toutes les nations pour participer à la construction de ce nouveau temple. Suite à l'oracle de Zacharie au sujet des dons de Babylonie, le chapitre 7 ouvre la deuxième section du livre qui, comme la précédente, est chronologiquement bien répertoriée. C'est en décembre 518, 2 ans après la fin du ministère d'Agé, que Zacharie intervient publiquement pour la 4e fois. Ce discours est une réponse à une question concernant le rituel des jeûnes qui commémorait les événements douloureux de la fin du royaume de Juda. Fallait-il continuer à les observer? La réponse du prophète est dure. Il dit que les Israélites feraient mieux de réfléchir aux causes des malheurs qui les ont frappés et en tirer les conséquences. Il les exhorte à se détourner des comportements condamnables des générations passées pour vivre dans l'obéissance à la loi, notamment dans les rapports sociaux, parce que l'exploitation des faibles par les puissants avait été l'une des causes principales du jugement de l'exil. Mais en même temps, le prophète fait des promesses encourageantes en expliquant que les jours de jeûne seront changés en jours de fête. En effet, l'Éternel va transformer la situation de son peuple et le bénir. À la fin des temps, il le ramènera de la diaspora dans son pays pour qu'il le reconstruise. Il lui accordera alors la sécurité, la paix et la prospérité. En outre, les Israélites seront la source de bénédiction pour toutes les nations qui enverront des émissaires pour apprendre à connaître l'Éternel. La troisième section du livre est d'un caractère très différent des deux précédentes, car elle appartient au genre apocalyptique. Ce sont principalement des promesses adressées à Israël concernant sa restauration et son brillant avenir. On n'y retrouve plus la préoccupation pour le temple. Josué et Zorobabel n'y sont plus mentionnés et il n'y a pas d'appel à l'action ou à la repentance comme précédemment. Ces prophéties ne contiennent aucun indice qui permettrait de les dater, mais de toute évidence, elles furent rédigées bien plus tard que les précédentes et dans des circonstances très différentes. Ces prophéties ont 4 volets principaux et comme les 8 visions, elles suivent un mouvement concentrique. Le premier volet aborde en 2 paragraphes, qui se trouvent au début et à la fin, le sort des nations, d'abord celles qui sont voisines d'Israël, puis toutes les nations du monde. Zacharie annonce leur jugement, mais dit aussi qu'un petit reste participera au salut du peuple de Dieu. Le second volet de ces prophéties parle d'un personnage important en 4 paragraphes mis en parallèle. C'est un roi présenté sous les traits d'un berger dans lequel on peut reconnaître le Messie. Le premier paragraphe le présente comme un roi opprimé par ses ennemis, mais sauvé par l'Éternel. Le deuxième annonce son rejet par le peuple de Dieu. Le troisième paragraphe annonce aussi que le Messie sera transpercé, mis à mort par son peuple, mais ce dernier finira par se repentir de ce crime sous l'action purificatrice de l'Esprit de Dieu. Le quatrième paragraphe évoque à nouveau la mise à mort du berger et précise que l'Éternel éprouvera son peuple afin de le purifier. Le troisième volet de ces prophéties est également en quatre paragraphes. Il parle des guerres à venir du peuple de Dieu et de la victoire qui lui est accordée miraculeusement contre des ennemis bien plus puissants et mieux équipés. Dans le dernier paragraphe, qui se trouve vers la fin du livre, Zacharie brosse un tableau magnifique de la Jérusalem future transfigurée à l'aube d'une nouvelle création. Le quatrième et dernier volet de ces prophéties est en deux paragraphes très brefs. Il souligne que même après l'exil, Israël a encore besoin d'être purifié de l'idolâtrie et des faux prophètes. Comme tous les autres livres des textes sacrés, Zacharie a fait l'objet d'un feu nourri de la part de ceux qui adoptent une attitude critique à l'égard de la parole de Dieu. Il est cependant vrai qu'il existe des différences marquées dans le genre littéraire, le style et le vocabulaire entre la première grande moitié du livre, qui se compose d'oracles et de visions, et la seconde, qui est du genre apocalyptique. Mais ces divergences ne signifient pas pour autant que ces deux parties du livre ont été écrites par deux auteurs différents. Si Zacharie a repris sa plume après une pause de 30 ans, par exemple, on s'attend à ce que la situation ait bien changé et que les préoccupations et les besoins des colons aient évolué avec le temps. Tous les manuscrits du livre que nous possédons le traitent comme un tout, une unité. De plus, à côté des différences entre les deux parties du livre, il existe aussi des similarités. Par exemple, Zacharie a une prédilection pour le chiffre 4 qui se trouve partout et l'expression « personne qui passe et qui repasse » qui n'est utilisée que par lui se trouve dans les deux sections du livre. Il faut aussi remarquer que certains thèmes reviennent tout au long du livre comme l'espérance messianique, la conversion des nations, le retour du peuple élu de la diaspora, la gloire de Jérusalem, l'importance de la purification, l'importance de revenir à l'Éternel et de changer de comportement. Le livre de Zacharie a un enseignement très riche qui porte sur de nombreux sujets, au point où Luther a pu dire qu'il était la quintessence des prophètes. Le chapitre 3, par exemple, où l'on assiste à la réhabilitation du grand prêtre Josué, est une merveilleuse illustration de la doctrine de la justification du croyant par la grâce divine. Dans ce passage, après avoir fait taire l'accusateur, l'Éternel ordonne qu'on ôte à Josué ses vêtements souillés qui représentent les péchés de son peuple et qu'on les remplace par des habits de fête. Comme je l'ai déjà fait remarquer, Zacharie parle beaucoup du Messie que l'Éternel appelle mon serviteur, le germe, parce qu'il est à la fois le descendant du roi David, annoncé par les prophètes, et le serviteur de l'Éternel, prophétisé par Ésaïe, qui devait mourir en sacrifice pour les péchés du peuple de Dieu. Le Messie glorieux et le Messie souffrant ne font qu'un. En tant que grand prêtre qui s'offre lui-même en sacrifice, il sera humilié, trahi et mis à mort. Cependant, il s'assoira sur le trône de David. Le cumul de la royauté et de la prêtrise par le Messie implique la fusion du politique et du cultuel et l'abolition de la distinction entre le sacré et le profane, qui était très nette dans la loi de Moïse, mais qui est effacée dans le Nouveau Testament. En outre, comme Zorobabel et Josué qui ont dirigé la reconstruction du temple de l'Éternel, le Messie en bâtira un qui sera nouveau. Tous les symboles messianiques qui sont dans le livre de Zacharie et des prophètes annonçaient Jésus et c'est en lui que les prophéties trouvent leur plein accomplissement. Zacharie voit aussi l'humanité comme devant se diviser en deux camps, Jérusalem et Babylone, le peuple de Dieu et les nations païennes. Cependant, cette ligne de démarcation partage toutes les nations, y compris Israël. C'est l'attitude adoptée par les uns et les autres vis-à-vis du Messie qui constitue le critère de séparation entre les boucs et les brebis. Zacharie, comme d'autres prophètes, annonce plusieurs fois le salut de non-juifs qui seront pleinement incorporés au peuple de Dieu. La question qui se pose est donc celle-ci. En ferez-vous partie?